Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre. C'est la deuxième rencontre de l'après-midi, en tout cas à la Maison de l'Imaginaire. Rencontre intitulée « Fantastiques Odyssées » et qui rassemble sur un même plateau Hélène Montardre, qui est à ma droite, qui est l'auteur, en tout cas pour le livre pour lequel on la reçoit aujourd'hui, qui est l'auteur d'un livre intitulé en deux volumes intitulé Mirapolis. Mirapolis qui est un livre, une dystopie, et on va voir justement de quelles aventures vivent ces héros et qui ont Mirapolis en ligne de mire, voilà. Donc c'est un livre pour la jeunesse. Nous avons, alors je vais d'abord Riff à la droite d'Hélène Montardre, qui est l'auteur. Alors auteur et illustrateur, c'est vous qui avez fait les deux ?
Adaptateur.
Oui.
Dans
votre micro, en fait.
Oui, donc il s'agit d'un recueil d'adaptations, de nouvelles que j'ai adapté en bande dessinée.
Voilà, qui ont toutes pour thème la mer, le voyage maritime, donc voilà. L'Odyssée, d'une certaine façon.
Odyssées.
Voilà, des Odyssées. Donc ça s'appelle Hommes, au pluriel, Hommes à la mer, aux éditions Noctambule, et c'est un ensemble de nouvelles consacrées à la mer et qui sont donc adapté et illustré par Riff. Et Thierry Murat à sa droite, aussi vous, auteur, adaptateur, illustrateur aussi, de la même façon. Alors là, vous avez, c'est peut-être plus facile à expliquer dans votre cas à vous, puisque c'est Le vieil homme et la mer d'Hemingway que vous avez adapté et illustré, et c'est aux éditions Futuropolis. Alors, ce qui vous rassemble tous les trois, c'est, comme on l'a dit, la question de l'Odyssée, des fantastiques Odyssées. Alors, pour Hélène Montardre, peut-être que l'idée de fantastique, c'est évident, puisque c'est une dystopie, donc évidemment, on se projette, c'est un roman d'anticipation, on peut dire, oui, un roman d'anticipation, donc on se projette dans l'avenir, donc il y a une dimension fantastique évidente. J'ai envie de dire que au premier abord, pour Riff comme pour Thierry Murat, le mot fantastique n'allait pas forcément de soi, puisque c'est le thème de la mer, tout simplement. Mais avec le thème de la mer, on bascule, je crois que ce que montrent vos deux livres, c'est qu'on bascule facilement du côté du fantastique, ou en tout cas du mythique, peut-être.
En tout cas, dans mon cas, certains des auteurs sont des auteurs de fantastique. Il se trouve que j'ai sélectionné parce qu'ils étaient maritimes et parce que l'histoire m'inspirait. Donc, ils ne sont pas nécessairement fantastiques à la base, mais certains ont une touche, une goutte, peut-être parfois plus, de fantastique.
Voilà. Oui, Thierry Murat, c'est Le vieil homme et la mer, ce n'est pas un roman fantastique au départ, mais...
Si, c'est un roman fantastique, mais pas au sens où vous l'entendez. Non, il y a du fantasme, mais il n'y a pas de fantastique dans l'œuvre d'Hemingway. Enfin, pas de fantastique.
Oui, générique.
Au sens générique du titre que vous avez voulu donner.
C'est pas moi qui l'ai donné.
Non, après du fantastique, ouais, on peut.
Non, mais ce que je vais en profiter pour voir peut-être le mot fantastique. Peut-être ne convient au départ pas forcément très très bien pour vos livres, mais il a au moins le mérite de pointer justement le caractère peut-être mythique et effrayant qu'il y a toujours dans la relation de l'homme à la mer, en fait.
Alors oui, ça oui, le côté mythique dans Le vieil homme et la mer, puisque déjà c'est un livre culte par essence, donc ouais. Et puis dans dans l'épopée de ce vieux sur sa barque, il y a quelque chose de mythique, c'est sûr. C'est une vraie odyssée. Une vraie odyssée au sens homérien du terme. Enfin, c'est une espèce de livre phare de la littérature, comme ça, où on est à la fois dans un récit biblique, homérique. C'est un espèce de truc archétypal, quoi.
Oui, voilà. Initiatique aussi.
Ouais. C'est un... Je pense que la définition du mot fantastique, si on veut raccrocher tout ce qu'on va pouvoir dire comme bêtise là-haut, si on veut raccrocher tout ça au titre du débat auquel on participe. Je ne sais pas si ouais, la définition du mot fantastique est vaste, hein, elle est ouverte en tout cas. Donc, alors du fantasme, il y en a dans le vieil homme et la mer, ça c'est sûr. Enfin, moi j'ai essayé d'en mettre. En essayant d'aborder, de sublimer tous les thèmes qui sont abordés dans ce récit, comme la relation de l'adulte à l'enfant, l'effort, l'œuvre d'une vie, la vieillesse, enfin il y a tout un tas de choses, la liste est vachement longue, donc je vais pas m'y
et alors ça, me lancer enfin ça fait longtemps que vous aviez en tête cette envie d'adapter le vieil homme et la mer, ou comment s'est passé le déclic ou l'opportunité ou l'idée de l'adapter, le vieil homme et la mer?
Moi je l'ai lu quand j'étais pré-ado, je ne sais plus, vers 11-12 ans, quoi. En 2005, j'ai adapté une œuvre littéraire d'un auteur contemporain, une jeune femme qui s'appelle Anne-Laure Bondou, chez Futuropolis aussi. C'était un petit peu mes premières armes en termes d'adaptation littéraire. Et ça m'avait bien plu comme exercice. Et du coup, je cherchais une autre idée, un autre texte à adapter comme ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire... je me suis mis à chercher des idées, des titres phares comme ça dans la littérature, des espèces de repères qu'on a dans nos lectures d'enfance, quoi. Et ce livre-là m'est tombé sous la main direct, quoi. Je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas, quoi. Ce serait chouette. Puis le souvenir de lecture que j'avais.
Oui, c'est un livre dont vous vous souveniez qu'il avait été important.
Il était resté intact depuis l'âge de mes 12 ans, ouais, c'est sûr. C'est un texte fort, quoi.
Riff, pour Hommes à la mer, vous aussi, ce volume s'inscrit dans un parcours, dans un projet. Vous avez adapté d'autres livres auparavant. Comment en êtes-vous venu à ce choix-là, d'un coup, de passer à l'adaptation de nouvelles? C'est un peu particulier, c'est assez rare. Enfin, c'est
plutôt rare, et en bande dessinée, que ce soit conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il arrive évidemment couramment en bande dessinée qu'on ait l'occasion de faire des histoires courtes pour des publications dans des journaux, des magazines. Oh, j'ai l'impression que c'est trop fort. Et donc, il arrive évidemment qu'il y ait plein de recueils d'histoires courtes ou de nouvelles en bande dessinée, mais c'est en général un recueil d'histoires publiées à différents endroits. Tandis que là, c'est moi qui ai conçu le livre complètement en me disant « je vais faire un recueil de nouvelles ». Donc j'ai été piocher des nouvelles à droite, à gauche, enfin surtout avec une thématique particulière, et j'ai créé ce recueil et un concept global. Ce n'est pas une récupération de choses faites qui font le recueil. C'est vraiment un projet conçu dans son ensemble. Mais ce livre-là se trouve être le troisième d'une trilogie maritime. Le premier que j'ai fait était, évidemment c'est tout la même collection, hein, était une adaptation d'un roman de Pierre Macorlan, à bord de l'étoile matutine, qui est une aventure maritime, une histoire de pirate, mais enfin c'est bien au-delà de ça, parce que c'est l'écriture du Macorlan et ce qu'il dit de l'homme qui m'intéressait. Et sur le deuxième, je n'avais pas prévu de faire du maritime, mais finalement j'ai fait un Jack London qui s'appelle Le Loup des mers, que j'ai adapté aussi, qui a apporté pas mal de succès. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais assumer jusqu'au bout le côté maritime, parce que j'y suis allé par hasard un petit peu. Et finalement, je vais...
Oui, vous n'êtes pas marin dans l'âme.
Je suis un auteur de livres dans l'âme, donc tous les sujets m'intéressent. Et qu'on voyage sur l'eau, dans l'espace ou dans le passé, c'est des voyages que je propose. Maintenant, les moyens importent peu à mes yeux, et je ne suis pas obsédé par le dessin de la mer ou des bateaux. C'est raconter des histoires qui m'intéressent, et voilà. Donc sur ce troisième-là, je me suis comment bouclé après deux récits assez forts, surtout que le Jack London est d'une très très grande puissance littéraire à l'origine, et puis je me suis dit que je n'arriverais pas à trouver un roman qui m'inspire tout autant, et je risquais d'être en dessous, et je me suis pour le coup, faisons à côté, et je me suis dit, puisque je boucle une trilogie maritime, finissons par un espèce de petit tour d'horizon de différents auteurs, de différentes époques et de différents styles, puisqu'on trouve effectivement du fantastique, mais du romantique, mais un peu d'humoristique, sur une en tout cas. Et j'ai même complété par des illustrations d'extraits de romans.
Et justement, de romans ou de grands textes, on a l'Odyssée, justement.
On commence par l'Odyssée, parce que quitte à faire un tour du maritime, autant commencer par le premier grand récit. Et là, on est dans la mythologie, donc le fantastique est présent en permanence, quoi.
Hélène Montardre, Rive disait à l'instant que ce qui l'intéressait dans la littérature, non, il n'y a rien, il n'y a pas à appuyer pour le micro, que ce qui l'intéressait, quel que soit le sujet, c'était de proposer un voyage. Et, je ne connais pas l'ensemble de votre œuvre, mais si je me fie à Mirapolis, j'ai envie de dire que ça doit être aussi un petit peu votre projet, proposer un voyage mental et, au lecteur. Est-ce que ça fait partie de vos projets ou est-ce que c'est des mots que vous ne reprendriez peut-être pas tel quel, hein.
Si, quand on écrit, on propose toujours un voyage. Parce que bon, je sais pas, pour moi, l'écriture, ça part. Moi, j'ai d'abord été lectrice, bien sûr, avant de commencer à écrire. Et pour moi, les livres, c'est toujours ce qui m'a emporté plus loin. Le livre permet d'aller plus loin que là où on est. Et donc, forcément, quand on écrit, c'est ce qu'on fait aussi. On va plus loin que là où on est et on essaye d'emporter ces personnages et ces lecteurs plus loin que là où ils sont. Alors quelquefois, effectivement, ça se traduit par un vrai mouvement, c'est-à-dire on a des personnages qui vont voyager géographiquement. Quelquefois, il n'y a pas un vrai mouvement, mais ça ne les empêche pas d'aller plus loin et de voyager. Donc Mirapolis, c'est les deux, puisque Mirapolis est un roman en deux volumes. Donc là, c'est le tome 2, où les personnages dans le tome 2 voyagent géographiquement. Et dans le tome 1, c'est l'inverse.
Oui,
dans
c'est le premier, c'est plutôt un voyage initiatique moral.
Voilà. Ils sont cloués dans un endroit et c'est précisément la lecture qui va les emporter plus loin et qui va leur donner cette envie d'aller découvrir ce qu'ils appellent l'ailleurs, puisque mes personnages vivent dans une cité où il y a plein de mots qui ont disparu et le mot ailleurs a disparu. Et à un moment, quelqu'un découvre ce mot ailleurs et à partir de ce moment-là, il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce que c'est. Et le tome 2 emmène les personnages vers l'ailleurs. Et voilà. Je ne sais plus quelle était votre question.
Ma question, vous y avez répondu. C'était dans quelle mesure votre projet d'écrivain serait aussi de proposer un voyage au lecteur.
Oui, tout à fait, oui, voilà.
Et effectivement, et vous l'illustrez très bien, justement, Mirapolis, dans son tome 1 comme dans son tome 2, propose des voyages. Et vous l'avez dit, le premier est plutôt une initiation, on peut dire, intellectuelle, humaine, spirituelle, presque. Enfin, intellectuelle, en tout cas.
Oui, intellectuelle. Oui, oui, oui.
Intellectuelle.
C'est intellectuel et puis de recherche de soi aussi. C'est-à-dire, dans le premier, les personnages vont vraiment essayer de découvrir qui ils sont parce qu'ils n'en ont pas la moindre idée, en fait.
Et en fait, ils vivent dans une cité où on les a programmés, en réalité. On les a programmés et ils ne connaissent qu'un certain nombre de mots. Et il voilà. Y a tout un tas, tous les mots qui sont liés à l'imaginaire, finalement, sont bannis de
ces
leur vocabulaire.
Ces mots-là ont disparu. Voilà.
Et donc l'initiation, c'est une ouverture à l'imaginaire.
Oui, voilà, c'est à partir des mots, effectivement, rouvrir l'esprit, rouvrir l'imaginaire, et par là la réflexion, et par là l'intelligence, la découverte, la création. Et c'est ce que vont faire les personnages dans le deuxième volume.
Et alors, est-ce que, justement, dans votre travail, justement, la dystopie occupe une place particulière, une place privilégiée pour permettre ces initiations ?
Pas
du tout.
Pas
spécialement ?
Non, c'est plutôt un accident, je dirais. J'ai déjà écrit un autre roman qui s'appelle Océania aux éditions Rajo, un roman en 4 volumes, qui est aussi un roman d'anticipation, c'est de l'anticipation réaliste. Et quelque part, Mirapolis est aussi de l'anticipation réaliste. C'est-à-dire, quand on écrit de l'anticipation, ça n'a rien de fantastique. On parle beaucoup, on parle d'abord de la société dans laquelle on est, dans laquelle on vit. Et même si on est dans l'anticipation, ce dont on parle, c'est de ce que l'on vit ou de ce que l'on pourrait vivre, de ce qui pourrait arriver à notre société. Et là, moi, j'avais envie de parler du livre, de l'écriture. Et c'est pour ça que dans l'intitulé de la conférence Fantastique Odyssée, ce qui m'intéresse, moi, c'est le mot Odyssée, c'est pas le mot fantastique. Parce que Odyssée, c'est Odysseus, c'est Ulysse. Et c'est le premier grand livre qui porte tout, qui porte l'aventure, le voyage, la construction de soi, la découverte. Et dans le thème de la conférence, c'est ce mot-là que je trouve intéressant. Et là, je me suis intéressée au livre. Je me suis dit, finalement, la lecture, le livre, l'écriture, c'est quelque chose qui pourrait disparaître. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans notre civilisation, enfin dans les civilisations qui nous ont précédées, l'écriture a disparu. On a oublié l'écriture. Et qu'est-ce que ça voudrait dire vivre dans une société où on n'aurait plus l'écriture, où on n'aurait plus les mots écrits, où on n'aurait plus la lecture? Que deviendrait-on? Et je suis partie de cette idée-là. Et pour la traiter, l'anticipation m'a paru être le genre le plus évident. Donc je suis partie sur l'anticipation.
Puisqu'effectivement, vous vous projetez dans une situation.
Voilà. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y allions peut-être.
Et pour vous, c'est particulièrement important, dans la mesure où vous écrivez pour la jeunesse, de proposer des livres qui ont une fonction, ou en tout cas un parcours, je dirais, initiatique, puisque c'est aussi le propre de l'Odyssée.
Certainement, mais je pense que c'est tout aussi important pour des lecteurs vieillesse, si on peut dire. Enfin, pas jeunesse. Mais le propre du livre jeunesse, c'est que tout le monde peut le lire. Et je pense que qu'on soit un lecteur pré-ado, ado, adulte, ce que l'on va chercher dans un livre, c'est un petit peu toujours la même chose que l'on cherche. C'est ce petit truc qui va vous attraper, qui va vous faire réfléchir, qui va vous emporter plus loin. Et c'est pas très différent qu'on soit jeunesse ou
oui, pour vous,
c'est adulte.
Voilà, écrire pour la jeunesse, c'est la même chose que d'écrire,
je suppose.
Riff, et je poserai la même question à Thierry Murat, vous diriez aussi que vous écrivez d'une certaine façon sans vous préoccuper de l'âge du public, de l'âge des lecteurs?
Le ciblage ne concerne pas les artistes. L'artiste fait ce qu'il a à faire et le ciblage concerne l'éditeur et le commerce qui s'ensuit, le libraire qui va se demander où va le ranger ce livre-là. Même au moment où on le fait pour parler à quelqu'un, mais ce quelqu'un est une espèce de personnage idéal qui a sans âge, sans sexe, sans histoire, et dans lequel on se dit « est-ce que je l'intéresse encore ?» Mais on ne se dit pas « est-ce que je l'intéresse à 8 ans, à 12 ans, à 13 ans ?» Ça n'existe pas. Et pour la plupart, on est là des vieux enfants et on va encore être de plus vieux enfants plus tard. Et jeune, j'avais déjà des idées bien vieilles aussi, donc tout ça n'a pas vraiment de sens au moment où on se préoccupe d'écrire. Évidemment, on entend par jeunesse qu'on va éviter une certaine forme de violence, une forme de sexualité et tout ça, mais à partir du moment où c'est pas le sujet même du livre, on peut aborder ces sujets-là avec beaucoup de pudeur et l'enfant va comprendre ce qu'il a à comprendre. Et je me rappelle qu'étant enfant, j'entendais les adultes parler, qui se préoccupaient pas de moi particulièrement, et j'y en comprenais des choses, et je lisais des livres qui n'étaient pas de mon âge, et je comprenais ce que je pouvais comprendre à mon âge. Donc le souci n'est pas là. De toute façon, on est encore adulte à lire des livres qu'on ne comprend pas entièrement non plus. On est toujours en train de progresser, je suppose, d'être curieux. Et cette curiosité n'est pas une histoire d'âge, c'est juste une histoire de nature animale que nous sommes, quoi.
Thierry Murat, j'ai comme l'intuition que vous pourriez dire à peu près la même chose que Riff.
Eh bien, pas tout à fait. Parce que je pense qu'il a... ouais, dans le fond, évidemment, on est tous d'accord dans ce qui vient d'être dit. Mais je pense qu'une histoire, quelle qu'elle soit, si elle est bonne, elle est universelle. Effectivement, on s'adresse à tout le monde. Et puis, c'est surtout pas le propos de l'artiste de se poser ces questions-là. Mais je pense que en plus de la forme, en plus du fond, il y a quand même la forme. Et souvent, la forme fait que on va, quoi qu'on en dise, avoir des bouquins dits jeunesse et des bouquins dits adultes. Mais ça ne tient pas au fond du récit et ça ne tient pas à ce qu'on raconte réellement, mais à la manière dont on le raconte.
Et aussi peut-être la manière dont on attire, mais sans que c'est pas du tout péjoratif, hein, la façon dont on attire ou on rend accessible.
Mais il s'agit pas tant d'accessibilité ou de complaisance ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on on parle pas de la même manière entre adultes que quand on parle avec un enfant. Mais il s'agit pas, pour rejoindre Riff, non, mais il s'agit pas de se censurer sur la sexualité ou la violence ou quoi. Mais c'est juste une affaire de ton. De tonalité aussi, c'est des petites nuances. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des collections jeunesse qui existent, qui ont été créées par les éditeurs, et des livres dits tout public.
Alors par exemple, l'adaptation de Vieil homme et la mer, vous avez eu l'impression de vous adresser à qui ou à quelle tranche au moment où vous l'avez... Est-ce que c'est une question que vous êtes posée?
Non, mais non, pas du tout. Là, du coup, je rejoins complètement ce qui a été dit.
Après coup, on peut se douter, quand on voit le travail fait, que ça va plutôt intéresser une certaine catégorie de personnes. Mais en même temps, on ne cherche pas à catégoriser, on cherche à parler au plus grand nombre possible. Bah ouais. Je veux dire, le but est aussi de vivre de notre travail et de faire rêver un maximum de gens. Ce n'est pas pour devenir riche, c'est parce que notre plaisir, c'est la dimension du rêve. Et plus on le partage, Mais c'est pas plus mal, on est d'accord. Mais enfin, je veux dire,
le, le dire dans le micro, hein.
L'idée est de partager nos rêves à nous. Voilà, c'est assez, c'est égoïste et partageur à la fois. Enfin, on est, on veut se dire qu'est-ce qui m'intéresse de faire pour que ça intéresse tout le monde. Voilà. Maintenant, les clés, on les a pas totalement. Et puis, il y a plein de confusion sur ce qui est dit pour la jeunesse. Je veux dire, à partir du moment où on a des personnages enfants, par exemple, ça peut être une histoire pour adultes, mais le regard des gens, ils vont voir des enfants, dès qu'ils vont penser que c'est pour des enfants. C'est ridicule. Mais comment leur expliquer ça? Parce que c'est ancré, on est tous avec des clichés comme ça. On suppose, par exemple, j'ai fait un Jack London, tout le monde dit, ah, Jack London, c'est un écrivain pour la jeunesse, parce qu'ils ont lu Cro-Blanc et c'est tout, mais Cro-Blanc n'était pas écrit pour les enfants. Jack London ne s'est jamais mis à sa table en disant, je vais écrire pour les jeunes. Il a écrit des livres pour changer le monde, pour faire la révolution, c'était un socialiste révolutionnaire. Enfin bon, et donc il n'a pas du tout abordé ça comme ça, mais juste on a connu ça en France par des versions édulcorées, sans, enfin, recoupées, qui fait son succès, et tant mieux. Mais par exemple, il y a une confusion totale sur cet écrivain-là. Et dans un autre genre, je crois que j'ai perdu un peu le fil, les fables de La Fontaine n'étaient pas faites pour les enfants. Et or, on apprend ça à l'école, comme des petites chansonnettes, c'était écrit pour le roi de France, c'était pas non plus un gosse, Louis XIV. Donc il y a beaucoup, beaucoup de confusion. Sur exactement qu'est-ce qui est un jeune, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous dire un petit peu donc, le choix des nouvelles que vous avez fait, justement, est-ce qu'il y a des nouvelles que vous avez éliminées parce qu'elles étaient difficilement finalement adaptables ou elles correspondaient moins, finalement pas tant que ça à votre univers? Comment avez-vous alors il y a le choix des textes, enfin des textes qui vous plaisent, mais il faut, j'imagine, aussi que ce soit des textes qui vous inspirent.
Alors, si c'est un livre d'aventure, c'est aussi l'aventure d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, tout ne se passe pas d'une manière absolument rationnelle. J'avais au départ l'idée d'adapter uniquement le roman de William Hope Hodgson, un écrivain anglais oublié, et pour cause il est mort jeune et peu écrit, et qui est lui, pour le coup, un inventeur du fantastique, puisqu'il s'est il est à l'origine de ce que va faire Lovecraft après. Voilà. Et donc je pensais qu'avec ce recueil-là, j'avais assez de matière pour faire un recueil de nouvelles de William Hodgson. Or, en le lisant, je me suis aperçu qu'il n'y en a finalement que deux qui m'intéressaient sur l'ensemble. J'ai dit deux, ça ne fera pas un recueil complet. Et il se trouve que suite à mon adaptation de Pierre McCorland, un ami en fait, qui était mon premier éditeur il y a 30 ans, m'a offert l'édition originale de Pierre McCorland. Et à la fin de ce volume, j'ai trouvé des nouvelles que je ne connaissais pas, dont deux étaient maritimes et qui m'ont complètement transporté, et j'ai vu comment l'image et le texte, l'association des deux pourraient apporter une nouvelle vision de ces histoires. Je me suis retrouvé donc avec quatre histoires, mais que de deux auteurs. J'ai dit, bon, il faut que je complète. Et donc là, j'ai un peu ouvert le catalogue, Internet, j'ai été à la bibliothèque, enfin, et puis moi me rappeler, et je me suis dit, bah tiens, pour comment éviter d'avoir Stevenson dedans. Donc j'ai pris une fable de Stevenson qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît de lui de manière générale, mais il était important pour moi qu'il y soit, parce qu'il était important dans ma vie, et sur des sujets maritimes, après l'île au trésor, il est difficile à écarter. De la même manière que j'ai pensé en illustration qu'il fallait bien qu'il y ait quelque chose de voyage d'Ulysse. Enfin bon. Donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure, comme on improvise un chemin et les choses se complètent. Et après, effectivement, j'ai sélectionné, j'ai trié, parce que après, il y a d'autres questions qui sont celles des limitations des pages d'une bande dessinée. Je ne peux pas en faire un volume gigantesque pour des raisons de prix d'achat à la fin. Il faut que ce soit et moi-même de prix ou moi à payer. Donc, enfin bon. Donc il faut que tout ça soit cohérent. Donc j'en ai écarté certaines, j'en ai choisi
et
d'autres.
Et puisqu'il y en a qui étaient plus qui collaient moins en adaptation, peut-être.
Oui, certainement. Donc ça, il y a plusieurs critères pour moi là-dessus. Mais bon, c'est un peu long. Je pourrais faire juste toute l'heure là-dessus. Hein. Mais en fin de compte, j'ai cherché à équilibrer aussi. Que tout ne soit pas fantastique, que tout ne soit pas mis à la même moulinette, que tout ne soit pas uniquement... enfin, que je montre mon amour de la littérature à travers différents auteurs. Donc, effectivement, de Edgar Poe, en passant par McCorland, mais il y a aussi Joseph Conrad, inévitable en littérature maritime. Donc, j'avais du mal à trouver une courte de Conrad. Donc, j'ai pris un extrait, un chapitre de Conrad pour en faire une histoire. Donc, c'est vraiment de l'adaptation dans ce cas-là.
Thierry Murat, quels sont les problèmes, peut-être, enfin, que vous avez forcément résolus, mais que vous a posé ou que pose de manière générale l'adaptation justement d'un roman en quoi vous diriez oui, en roman graphique, on dirait, oui, hein, en roman graphique. Quelles sont les principales difficultés que vous avez évidemment surmontées, mais pour savoir un petit peu les coulisses de votre travail?
Les premières questions à se poser quand on adapte une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit un roman, que ce soit... ou quand on fait une reprise d'une chanson, ou quand on porte sur la scène théâtrale un récit, quel qu'il soit, enfin, une transposition d'un moyen artistique sur un autre, la première question essentielle à se poser, c'est de ne pas faire un copier-coller, déjà, parce que ça n'a aucun intérêt, et se poser la question de qu'est-ce qu'on va soi-même pouvoir ramener comme petit élément et pour pouvoir faire un humble travail d'auteur, enfin ouais, un humble travail artistique, voilà, essayer de essayer de ne pas refaire la même chose et essayer de ne pas tirer vers le bas non plus, ça serait quand même dommage, sans avoir la prétention de vouloir systématiquement tirer vers le haut, surtout lorsqu'on prend un chef-d'œuvre. Avoir l'humilité de se dire... alors c'est compliqué comme question, parce qu'en même temps, on se dit, je vais pas le tirer vers le bas, mais inconsciemment, au fond de soi, on se dit, je vais un peu le tirer vers le haut, et on n'a pas le droit de penser ça, c'est mal.
Oui, mais l'espace de liberté, c'est de dire finalement, je passe d'une forme littéraire à une autre forme littéraire, je pars du roman de Hemingway... donc du pur texte, et là je vais passer par l'association texte et dessin, donc du coup je suis sous une autre forme, mais c'est vrai que la question intéressante c'est de dire quelle raison j'ai de donner mon interprétation à ce livre, et si on, tant qu'on n'a pas trouvé l'intérêt, il ne faut pas le faire. Je veux dire par là que si on reprend une chanson de Jacques Brel et qu'on la chante comme Jacques Brel, à quoi bon la faire? Autant à ce moment-là la faire en hard rock, même si c'est pourri, ce sera marrant. Je veux dire, donc du coup c'est donner quel degré on va, qu'est-ce qu'on apporte en fait à ça, la principale question. Et l'autre, je pense que tu dois avoir comme moi quand tu adaptes, c'est qu'on a des formats de romans où il y a énormément d'informations à la page, et nous sur une BD on a peu d'informations à la page, donc ouais. La première chose c'est de se dire avant d'adapter je vais couper. Le premier travail d'adaptation c'est de se dire qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, quelle est ma vision dans ce que je garde, quoi.
Et ce qui est génial c'est quand, alors il a raison Riff, quand on fait ce travail d'adaptation on est obligé d'en passer par la coupe, quoi. Il se dit, je vais couper, mais c'est juste une raison de format et de volume de texte et de... Voilà. Et c'est inévitable. Et alors, la magie, c'est en faisant ce travail de coupe, quelquefois, on a du plus. À force d'accumuler les moins, j'enlève, par magie, quelquefois, on se dit, tiens,
on arrive à rajouter. Du récit.
Non, mais on rajoute des choses. Alors, je dis pas qu'on rajoute, que j'ai fait mieux qu'Hemingway ou que lui, il a fait mieux que McCorland ou London, mais on rajoute des petites choses infimes qui sont finalement la somme de tout ce qu'on a enlevé, mais on rajoute nos petites choses à nous. Mais ça, c'est pas quantifiable et puis c'est surtout pas prémédité. C'est la magie du cheminement.
C'est... En fait, pour conclure sur l'adaptation, parce que c'est pas non plus la thématique de la discussion, le fait qu'on ait besoin de concentrer. Alors c'est un problème parce qu'on se dit ah là là j'en laisse cette partie mais c'était bon, puis comme il écrit bien, enfin on se fait mal, puis à un moment donné quand on relit, l'effet de concentration fait comme pour un jus de fruits, c'est-à-dire qu'au lieu de le délayer en rajoutant, en l'étirant où il perd son goût, le fait qu'on soit sur un concentré donne plus de goût, plus d'intensité,
va donner plus
de
force,
condense les événements et redynamise, et mine de rien on ne maîtrise pas absolument ça, mais c'est une nécessité absolue de passer par là, et ben ça donne déjà un degré d'interprétation et ça donne le mérite d'exister, d'avoir sa version à soi finalement, quoi.
Et Thierry Murat, l'une des choses, j'ai envie d'employer le mot artifice, mais il n'est pas péjoratif, c'est une solutions que vous avez trouvées, c'est de mettre en scène ce personnage de l'enfant qui va raconter à Hemingway en fait, l'histoire du vieil homme et la mère.
Mais
c'est une solution narrative
Oui, c'est un petit artifice, on peut dire ça sans que ce soit péjoratif. Je crois que c'est, pour moi, c'était essentiel de donner une voix différente que celle de la voix du narrateur omniscient du roman original. Il y avait deux solutions. Soit je donnais la voix de Santiago, le vieux pêcheur cubain, soit je donnais la voix du gamin au récit. Et ça m'a paru chouette de donner une voix. Une voix enfantine et en même temps adulte puisqu'elle est littéraire, et en même temps une voix simple et du coup touchante parce que c'est la voix d'un gamin qui raconte à Hemingway ce que lui-même a entendu de la bouche du vieux, qui est son meilleur ami. Et j'aime bien cette chose qui se passe dans la littérature et dans la tradition populaire du conte, la tradition orale, on se passe le bâton, comme ça on se passe le relais, parce que c'est finalement le propos de qu'on a quand on adapte, on prend un truc et puis on le passe à son voisin. Et du coup j'ai voulu imager ce propos-là. Voilà, à travers la voix d'un gamin, à travers d'abord le récit du vieux qu'on imagine qui a raconté au gamin, et le gamin pour conclure qui raconte à Hemingway en personne, que j'ai eu énormément de plaisir et d'émotion à mettre en scène dans l'épilogue, quoi, voilà.
C'est la première fois que vous le dessinez ?
Que je dessinais Hemingway ? J'avais pas de raison particulière de dessiner Hemingway dans mes carnets. Non, mais là,
Non.
J'ai d'autres obsessions, mais pas celle-ci. Les vieux barbus, c'est pas mon truc.
Mais Hemingway, malgré tout, de l'affection pour lui.
C'est super émouvant de dessiner l'auteur du roman qu'on adapte à la fin, dans l'épilogue. Moi, ça m'a secoué quand même.
Vous l'avez dessiné d'après photo ?
Évidemment, je ne l'ai jamais rencontré.
Ah bah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne l'avez pas eu le sentiment de... Enfin, même si c'est toujours un peu le cas, de l'interpréter.
Un dessin, c'est toujours une interprétation. Donc même quand on part d'une photo, après, le dessin reste un dessin. Donc,
ça reste votre Hemingway.
Ouais, c'est mon Hemingway. Ouais. Je sais pas. Enfin, en tout cas.
Alors, Hélène Montard, évidemment, vous, c'est pas des adaptations, hein, du tout. Néanmoins, je reconnais que ma question, le lien était un petit peu artificiel, mais je suis sûre qu'on peut revenir avec dessus. Est-ce que c'est pas une adaptation, mais c'est toujours c'est les mêmes mythes qu'on revisite en permanence. Est-ce que vous avez, en écrivant, vous avez conscience de revisiter toute une tradition du roman initiatique, de l'Odyssée, d'une certaine façon?
En écrivant, pas forcément. Alors évidemment, quand on écrit, heureusement, on part pas de zéro. On part de tous ceux qui nous ont précédés, de tout ce qui existe. On part aussi de l'expérience de nos lecteurs, qui est très importante aussi. Mais dans l'écriture même, moi, quand j'écris, je suis pas en train de me dire « Ah bah tiens, je suis en train d'écrire un roman d'initiation ou ceci ou cela. » J'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train d'écrire. En fait, c'est l'écriture qui m'entraîne, comme ce que j'écris va entraîner après le lecteur. C'est l'écriture qui m'entraîne. Tant que je n'écris pas, tant que je n'ai pas commencé à écrire, je ne sais pas ce qui va arriver et je ne sais pas ce que ça va être. Moi, quand je démarre, j'ai une idée globale de ce que je veux dire, de ce dont je veux parler. Et pour moi, c'est le plus important. Je commencerai jamais un roman sans savoir de quoi j'ai envie de parler. Ensuite, j'ai très souvent un petit point de départ. J'ai des images dans la tête, des paysages, beaucoup, beaucoup de paysages, beaucoup d'images, et j'ai ce que j'appelle des passages obligés. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment de mon histoire, il y aura cet événement-là, que mes personnages vont se trouver dans cette situation. Par exemple, dans Mirapolis, j'avais ce grand espace végétal avec les nénuphars mangeurs d'hommes, je savais que ça y serait. J'avais mes deux personnages suspendus dans le vide, je savais que ça y serait. À quoi ça allait servir, comment ils allaient y arriver, je ne savais pas. Mais je savais de quoi je voulais parler et je savais qu'en écrivant, j'allais découvrir ce qui allait les amener là. Et le plus compliqué, finalement, c'est d'organiser tout ça. Et surtout pour Mirapolis, la structure est assez compliquée parce qu'au départ, les personnages sont séparés les uns des autres. Il n'y a pas d'interaction entre eux, donc il y a plein de points de vue différents. Et il faut organiser le parcours de chacun d'eux sans perdre le lecteur de vue. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur, au bout du compte, s'y retrouve, qu'il ne se perde pas lui-même en route.
Oui, donc, tout à fait. Oui.
Voilà. Donc la construction, finalement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais après, quand on écrit, on ne pense pas du tout qu'on est en train d'écrire. Même quand j'écrivais, je n'avais même pas conscience d'écrire un roman d'anticipation. Parce que c'est de l'anticipation, mais ça parle surtout de nous, en fait. Ça parle surtout, et c'est les personnages qui construisent l'histoire.
Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'il y aurait deux volumes dès le début ?
Je savais qu'il y en aurait au moins deux. Peut-être trois, j'étais pas trop sûre. mais deux, j'étais sûre qu'il y en aurait au moins deux.
Parce que ça permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'explorer vraiment deux aspects de l'Odyssée, de l'initiation, deux aspects très, deux plans différents en fait de l'Odyssée, le géographique et l'intellectuel. C'est quelque chose que vous aviez formulé.
Non, je le formule maintenant, mais oui. Au départ, c'était pas du tout comme ça. Non, c'est parce que je savais que ça allait être une histoire très ample, un travail ample, et que en un seul volume, ça allait être compliqué, et que je savais à un moment, je serais obligée de scinder les choses. Je savais pas comment j'allais les scinder. Et de toute façon, j'écris pas dans l'ordre, j'écris dans le désordre.
C'est-à-dire les chapitres dans le désordre ?
Oui. Par exemple, j'écris des morceaux qui sont aujourd'hui dans le tome 2, que j'ai écrit avant d'avoir fini le tome 1. Et après, je reconstruis. Et c'est pour ça que je savais pas si j'aurais besoin de 2 ou de 3 tomes. Si vous voulez, j'ai une idée globale, et ensuite, j'écris un peu comme les événements me viennent, et ensuite, je reconstruis, et je fais les liens, et j'organise.
Et alors, vous disiez que vous, néanmoins, vous saviez ce que vous vouliez dire.
Oui.
Quand vous commencez. Et alors, est-ce que vous, votre projet de départ, vous vouliez dire quoi ?
Ben, je voulais, c'est un peu ce que j'ai dit au début. Je voulais dire à quel point l'écriture est quelque chose qui est quelque part indispensable et à quel point c'est quelque chose qui nous emmène plus loin. C'est-à-dire, on peut raconter des histoires, on peut rester dans l'oral, mais quand on écrit, on va plus loin. Et enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'écrivain,
ça nous rend plus malins en fait de,
mais
d'écrire.
Oui, c'est-à-dire
c'est
que
agréable pour le coup de se dire je sors de la bêtise tous les ans un petit peu à chaque livre un petit peu parce qu'on se documente, on se renseigne, on lit d'autres choses, on est dans une plongée d'écriture.
Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que moi quand je commence à penser à un roman, j'ai des choses dans la tête, j'ai des images dans la tête, tout ça dans la tête, ça fonctionne très bien, puis c'est assez plaisant et voilà. Mais ça va pas plus loin. Quand j'écris, là, ça va plus loin. Et en fait, moi, si je me mets à écrire, c'est parce que je veux savoir ce qui va se passer. Et tant que je ne l'écris pas, je ne le sais pas. Et au fur et à mesure que j'écris, je me rends compte à quel point ça m'emmène plus loin et à quel point le fait de l'écrire provoque tout un tas de choses. Les personnages prennent de l'importance, se révèlent. Il y a d'autres personnages qu'on ne soupçonnait pas, hop, ils surgissent. Il y en a, ils disparaissent. C'est assez magique. Et si on ne l'écrit pas, si on ne fait pas cet effort de mettre les mots sur le papier, tout ça, on n'y a pas accès. Et donc l'écriture, ça construit la tête, ça construit l'intelligence, ça construit la réflexion. Et donc mon propos, c'était, si on était dans une société où on n'a pas l'écriture, mais comment on ferait ? Et où irait-on ?
Il n'y aurait plus de pensée, plus de...
Il y en aurait moins, c'est clair. Et il n'y aurait plus cette faculté. L'écriture donne le temps d'approfondir la pensée. Alors que si on ne l'a pas, on n'a pas ce temps-là, on ne peut plus approfondir. Et donc, on est en train de surfer tout le temps.
Maintenant, un petit mot sur Homère. On ne sait pas qui était Homère, on ne sait pas combien était Homère, on ne sait pas. Et ce n'était pas écrit, c'était des chants, c'était des contes, c'était raconté par couches. Enfin, je veux dire, ils se succédaient.
Mais
et finalement,
un
jour, ça a été rédigé.
À un moment, ça a été mis
ça
par
été,
écrit.
Et heureusement. Parce qu'on l'a. Mais en vérité, on ne peut pas supposer que les Grecs étaient plus stupides que nous, loin de là. Ils ont quand même inventé la démocratie, etc. etc., etc. Et donc, du coup, leur monde était bien, bien, bien moderne pour l'époque. Et pourtant, les contes se faisaient pas forcément par le papier ou la gravure sur pierre et tout ça. Mais
mais à un moment, ils en sont venus là. Et si on en est venu là, c'est qu'il y avait une utilité et un besoin.
Et puis, c'est la diffusion par l'écrit qui fait qu'on peut... les idées se diffusent, se mélangent, se mettent par couches à travers les siècles et la jeunesse d'un texte très ancien avec la vieillesse d'un texte récent. Tout ça se mélange et n'a pas d'âge puisque c'est de la pensée humaine, c'est toujours vivant tant qu'il y a quelqu'un pour le lire.
Et puis peut-être que au-delà de, enfin, bien sûr, le support écrit est important, mais on est dans une problématique du langage, enfin, de la verbalisation des choses. Donc la tradition orale n'est pas forcément appauvrissante. Enfin, il peut ne pas y avoir d'écriture, mais y avoir une tradition orale de pensée avec un vocabulaire riche.
Oui, tout à fait. Mais... si à un moment ces textes-là, qui effectivement étaient racontés à l'oral, ont été mis à écrit et ont été mis par écrit, à mon avis, c'est aussi qu'il y a eu un besoin, une nécessité.
Et nombre qui n'ont pas été écrits ont disparu. Et on s'est donc appauvri de ce point de vue.
Oui.
Thierry Murat et Riff, puisque vous êtes illustrateur et adaptateur. Là, on parlait de cette importance du langage, mais vous, votre langage, c'est aussi bien celui des mots que celui de, du dessin, de la couleur. Vous faites, vous articulez, est-ce que les deux, comment, est-ce que vous avez un discours justement sur la différence de ce que vous apporte le dessin et l'écriture?
Alors, on se trouve là, Thierry et moi, dans le cas d'adaptation, parce que ce sont les albums que nous avons en nouveauté, mais on fait aussi d'autres albums, on a aussi écrit des histoires, n'est-ce pas Thierry? Mais on a aussi travaillé avec des scénaristes. Enfin, dans le métier de la bande dessinée, il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Donc, les sensations autour de la rédaction à partir du rien, on les a ressenties aussi, même si ce n'est pas le cas là, on travaille sur une matière existante. Il faut savoir que 85-90% du cinéma est parti de romans, hein, et que l'essentiel de ce qu'on voit, c'est de l'adaptation. Et quand on voit d'une manière un peu négligente, oh, c'est une adaptation littéraire pour de la bande dessinée, c'est stupide de penser comme ça, puisque la télé est remplie. Heureusement qu'on peut voir un peu de Maupassant, pourquoi pas, ça améliore un peu la qualité de la télévision quand c'est bien adapté. Ou du Agatha Christie, ou je ne sais quoi, hein, peu importe.
Mais les chefs-d'œuvre au cinéma qu'on porte au nu, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou Danse avec les loups, ou Apocalypse Now, ou Danse avec le loup, Danse avec les loups, c'est d'abord des romans et personne ne les connaît.
Par contre, même sur les boîtes de DVD, on peut chercher le nom souvent, c'est trop petit ou pas du tout, peu importe. Mais donc voilà, les phénomènes. La question précisément par rapport à.
Ma question, c'est parce qu'on parlait de l'importance de ce que ça, de ce qu'apporte le langage, la verbalisation. Oui. Et vous avez deux langages.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose. Tenir un stylo et une feuille blanche est le cas de l'écrivain et le cas du dessinateur. Et le dessinateur et l'écrivain sont confondus. Représenter une chose, c'est ne pas l'écrire. Je peux faire une maison, madame peut écrire, c'est une maison. Et on choisit quoi dans le texte? Nous, c'est ça l'adaptation, se dire je représente la maison ou je dis maison et je montre autre chose. Donc en fait, madame a des images pour écrire, et nous on a plein d'images aussi, puisque c'est l'essentiel de notre métier. Dans mon cas, je suis quand même d'abord un dessinateur, et c'est le dessin qui m'a amené à la littérature, mais on ne peut pas faire de bande dessinée s'il n'y a pas de texte. Donc à l'essentiel, on peut avoir un mauvais dessin, mais un bon texte en bande dessinée, mais s'il n'y a pas de texte, ce sera un mauvais livre de toute façon. Donc la qualité graphique est un plus, mais ce n'est pas une nécessité absolue. La nécessité absolue, c'est d'avoir une bonne histoire captivante, enfin, qu'importe le sujet, la hauteur, et même si on... Enfin, voilà. Donc la chose est que nous, effectivement... Il y a un cas, il y a les frères Fleischer qui faisaient du dessin animé, c'était des concurrents de Disney à ses tout débuts. Le frère Dave Fleischer, le plus jeune, il écrivait jamais. À l'école, ça l'intéressait pas, il était mauvais élève, mais il dessinait très bien. Et quand sa mère l'envoyait faire les courses, il écrivait pas une boîte d'œufs, il dessinait les œufs. Mais ça allait aussi vite. Et donc il représentait tout, il faisait ramener les bonnes courses, donc il n'avait pas plus faux que l'écrivain, enfin que celui qui savait écrire. Et c'est simplement une manière de penser. Donc effectivement, nous on est dans le mariage du texte et du dessin, sachant que les deux se font de la même manière. Je veux dire par là, il s'agit de parler aux gens et d'exprimer du sens. Et faire succéder les dessins, faire succéder les mots, provoque un sens. Et nous, c'est rendu complexe, et la bande dessinée est un art complexe de ce point de vue-là, puisqu'on va mélanger effectivement texte et dessin, pour évoquer des émotions, des impressions, des voyages, enfin, peu importe le sujet ou la manière dont on l'aborde. Et c'est toujours la question de dire, est-ce que l'image tue le texte? Est-ce que le texte tue l'image? Que dois-je dire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je suggère? Qu'est-ce qu'il y a entre les cases? Qu'est-ce que je ne dis pas que les gens vont imaginer? Et puis, je vais te laisser en parler un petit peu. Parce que
sinon... Thierry Murat, vous aussi, vous êtes d'abord dessinateur?
Oui. Oui. Comme Riff, je suis d'abord dessinateur et comme beaucoup de dessinateurs dans le milieu de la bande dessinée, c'est l'image et le dessin qui nous a amenés vers la littérature. Et c'est tant mieux, parce que sinon, à la base, on est des gros incultes. Il faut quand même dire ce qu'on est.
On était punis quand on dessinait. C'était très mal vu.
Les mauvais élèves à dessiner.
Et les écoles d'art n'aimaient pas ça non plus.
À dessiner dans la marge du cahier de texte à côté du radiateur. Hein. C'est vrai, ça. C'est pas une légende. Mais bon... Cet amour du dessin et de l'image et du récit nous a amené vers la littérature, pour la plupart. Bon, il reste quand même quelques gros incultes dans le milieu de la bande dessinée, mais peu.
Mais il y en a dans la littérature, tu le sais aussi bien.
Mais c'est vrai, il y en a aussi. Et qu'est-ce qu'on disait ?
Non, oui, non, je vais plutôt enchaîner, mais justement, parce que, puisque nous sommes à la Maison de l'Imaginaire, en fait, le fond de ma question, mais vous y avez répondu, hein, mais c'est, est-ce que chez vous qui pratiquez le texte comme l'image, le dessin, vous dire, l'un et l'autre sont des rapports à l'imaginaire différents ou pas ?
On ouvre des fenêtres, mais c'est valable pour l'écrivain. Je ne vois pas vraiment de différence entre dessin et écriture, franchement. Je veux dire, les pictogrammes chinois sont des dessins qui faisaient une maison, et maintenant, ce pictogramme dit maison, mais avant, c'était un schéma de maison. Donc, l'écriture, la calligraphie, c'est de l'art d'écriture et de dessin mixé. Donc, franchement, c'est, pour moi, c'est difficile de distinguer l'un de l'autre. Et simplement, la feuille blanche, on n'a rien, on commence à mettre de la matière, on ouvre une fenêtre. Alors, en ce moment, pour nous, elle était maritime, donc on commence à dessiner, il faut qu'on sente le sel, le cri des mouettes ou des goélands, machin. Et on est parti, comme madame part dans le futur, regarder le présent. C'est la fenêtre, c'est la feuille, quoi. Et on se projette dedans avec du bon, du mal, puis on trie, puis à un moment donné, ça prend forme et le voyage commence, en tout cas pour nous, en espérant que les gens nous suivent, en gros.
Et vous aussi, Thierry Murat, vous savez quand ça part ?
Oui.
Je sais quand
ça part, exactement. Oui, non, mais par contre, ce qui... Pour aller un petit peu plus loin sur l'image narrative, comme ça, parce qu'il est bien question de ça dans la bande dessinée, on est loin de la peinture, où finalement en peinture on va proposer une image frontale et qui ne va pas raconter une histoire, ni une phrase, ni des mots, mais va raconter une émotion, ou des choses comme ça, des choses impalpables, enfin irracontables en tout cas, ou racontables de mille et une manières selon quelle est la personne qui est face à ce tableau. En bande dessinée, on est purement dans du narratif et ça passe par une succession d'images. Et ça, c'est vraiment très différent de l'image unique. La succession d'images, c'est vraiment une construction qui est comparable à la forme grammaticale. Et c'est y a même de la théorisation très savante qui va nous comparer la succession de cases à la forme sujet, verbe, complément, etc. Alors on ne va pas partir là-dedans parce que ce serait du délire. Et puis que complètement ridicule, mais c'est vrai qu'il y a de ça, quand on aligne des cases les unes à la suite des autres, on fait des phrases. Enfin, moi j'ai vraiment ce sentiment, j'ai le sentiment de faire des phrases. Bon, c'est juste une comparaison un peu, peut-être un peu.
Enfin, moi c'est vraiment
toi aussi,
direct.
Ouais.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr.
Voilà, et puis alors peut-être pas des phrases, mais en tout cas, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment de construire une forme, une entité. Alors, appelons pas ça phrase graphique, ça serait un peu pompeux, mais moi, sur la double page, je sais que quand j'arrive à boucler ma double page visuellement, qu'elle se lit comme une seule et même entité narrative, je suis content quand je vois qu'elle commence en haut à gauche, qu'elle finit en bas à droite et que ça se boucle bien, que les lignes se répondent, que les masses sont... Puis que c'est joli en plus que c'est joli à regarder et que ça raconte bien. Ouais, c'est un peu le même plaisir qu'on a dans l'écriture quand on a relu sa phrase 5 ou 6 fois, quand on se fait la musique... Et on se dit, ouais, ça sonne bien. C'est vrai,
l'idée, non, c'est pas on a ça. Une information par case, une information par page qui vont donner une information par livre. En gros, c'est séquencé le discours, c'est le texte, chapitre, on nous procède exactement du même ordre.
Et Hélène Montard, vous qui nous avez dit fonctionner en écrivant des scènes et puis reconstruire après, finalement, on a aussi, j'imagine que vous avez aussi, comme le disait Thierry Murat, ce plaisir de savoir du moment où vous avez agencé des choses qui étaient éparses et vous les avez reliées et ça fait une histoire.
Oui, c'est un petit peu la... Enfin, je ne sais pas si c'est la même démarche ou pas, mais...
Dans le plaisir de l'assemblage.
Ah, dans le plaisir, oui. Oui, dans le plaisir, oui. Parce qu'effectivement, il faut à un moment que tous ces éléments-là fonctionnent ensemble de façon harmonieuse et cohérente. Et effectivement, que l'on s'y retrouve, enfin, que l'auteur s'y retrouve, et puis que le lecteur puisse s'y retrouver aussi par la suite. Mais c'est vrai que... Enfin, bon, moi, je n'ai... Effectivement, je fonctionne juste avec des mots. J'ai toujours été absolument incapable de dessiner quoi que ce soit. Ça a été, même à l'école, c'était un drame, parce que même petite, on me demandait de dessiner une fleur, une maison, tous les autres y arrivaient, moi j'y arrivais pas. Et j'ai toujours fonctionné avec les mots. Mais par contre, je fonctionne avec les mots, avec des images que j'ai dans la tête. Je ne sais pas si les autres écrivains, c'est pareil, ou s'ils arrivent à fonctionner qu'avec des mots. Mais je suis quelqu'un de très visuel, en fait. Je pars toujours d'images. Et donc, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai écrit de façon comme ça, très... Je ne sais pas comment on peut dire, polyphonique, peut-être. Voilà. Et ensuite, en reliant tout ça, il y a plein de façons différentes de relier. C'est ça qui est intéressant. Et à un moment, je m'arrête sur un ordre. Et c'est cet ordre-là. Et en relisant, je m'aperçois que ça fonctionne. Ou que ça ne fonctionne pas. Voilà. Dans le meilleur des cas, ça fonctionne.
Merci à tous les trois. Je rappelle les références de vos livres, mais je crois qu'on a l'occasion de vous rencontrer encore ces jours-ci à Saint-Malo. Hélène Montardre, Mirapolis, tome 1 et tome 2. Le tome 2, c'est Les Lumières du Vaisseau, aux éditions Magnard, jeunesse. Riff, alors c'est Riff Reps, mais on a le droit de dire Riff.
Oui, j'ai signé des deux. J'ai commencé Riff Reb, c'était compliqué, j'ai simplifié Riff, puis l'informatique est arrivée et j'ai remis Riff Reb, parce que quand on tape ça, c'est moi qu'on trouve et pas tout autre chose.
Alors Riff Reb, Hommes à la mer, 8 nouvelles librement adaptées aux éditions Noctambule, et Thierry Murat, Le vieil homme et la mer, donc librement adapté du roman d'Ernest Hemingway aux éditions Futuroscope. Merci à tous les trois.
Et à savoir, excusez-moi, juste avant les énormes applaudissements que nous espérons, Thierry et moi exposons dans la même salle. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller.
Moi non plus.
Mais voilà, des originaux chouette, sont exposés aussi au Palais du Grand Large.
Donc bien, nous, oui, on va effectivement nous le signaler. Au Palais donc, du Grand Large, c'est les planches en fait originales.
Oui. Si vous voulez voir les planches de bande dessinée, à quoi ça ressemble avant que ce soit imprimé dans un livre.
Et de ces livres-là ou de l'ensemble de votre travail livres-là.
Quelques autres aussi.
Moi, l'essentiel vient de ce livre-là.
D'accord. Merci beaucoup.
C'est moi.